Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. Parce qu'on en a besoin. C'est pour ça qu'on le demande. Le Seigneur, le désir le plus profond du Seigneur, c'est que ses enfants discernent la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Dieu veut qu'on discerne sa volonté. Une petite anecdote. C'est un patient qui avait été voir son médecin. Mais le patient, il dit, lorsque j'ai dit à mon médecin que, il dit, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, il dit, ça me rend malade. Le médecin, il dit, au moins, vous avez une bonne vue. On dit qu'on ne découvre pas la volonté de Dieu, mais on la discerne. J'ai vu les livres, c'est marqué « Comment découvrir la volonté de Dieu ». Moi, je ne crois pas qu'on découvre la volonté de Dieu, on la discerne. C'est un peu comme quand vous en allez sur la route. Il n'y a pas un panneau qui vous arrive tout à coup. Vous voyez, le panneau est très, très loin, mais plus vous allez avancer, plus vous allez discerner ce qui est écrit dessus. La volonté de Dieu, c'est quand on se met en marche, on discerne là où il veut nous diriger. On ne fait pas un saut. « Hé, viens te trouver la volonté de Dieu. » MacArthur, il dit, « Coudon, il dit, « Te l'avais-tu perdu? » Non, on discerne la volonté de Dieu à mesure qu'on s'en va quand on avance. Mais il y a une chose que tout chrétien devra savoir, c'est qu'il est normal et important de connaître la volonté de Dieu. Vous aurez toujours de la difficulté à discerner la volonté de Dieu si vous ne vivez pas une vie de sanctification, une vie de soumission au Saint-Esprit. Quand on n'est pas, notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, il y a des bonnes chances qu'on ait de la difficulté à discerner la volonté de Dieu. Bien de la difficulté. Il faut que notre vie soit en règle avec le Seigneur. On va regarder dans un premier temps la volonté directive de Dieu. Il y a une chose, des choses de base que nous savons déjà. Il y a plein dans la parole de Dieu des sujets qu'on sait déjà. Nous savons, par exemple, selon 1 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une autre chose que Dieu veut de nous autres, c'est ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dieu veut que ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Nous sommes aussi dans sa volonté en marchant dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu, on le sait déjà. On peut voir aussi, soyez soumis à cause du Seigneur, toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé de lui par lui-même. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Nous sommes dans la volonté de Dieu en nous soumettant aux autres. Nous devons aussi nous soumettre aux dirigeants de l'Église. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront en rendre compte. C'est la volonté de Dieu. Au lieu de contester, on va aller discuter, on va aller chercher ensemble la solution. Quand on a un problème, ça prend une solution, pas rajouter un autre problème. On peut voir aussi les difficultés, même les difficultés, la souffrance, ça fait partie de la volonté de Dieu. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Car il vaut mieux souffrir, telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est la volonté de Dieu qu'on passe par des moments difficiles. Il y a des raisons pour lesquelles il nous fait passer là. Un autre point qu'on peut voir aussi, c'est que la volonté de Dieu demande une transformation. C'est automatique que si on veut discerner la volonté de Dieu, il va falloir qu'il y ait une transformation d'abord dans notre pensée. C'est un verset clé qui a probablement été cité quand on a touché ces sujets-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez que la nature nous forme, l'école nous informe, le péché nous déforme, mais Dieu nous transforme. Hein? Mais pour être transformé, il faut que ça commence dans notre esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par les pensées. Ça commence en dedans. Si ça ne commence pas ici, il n'y a rien qui va se passer à l'extérieur. Il faut que ça commence par l'intérieur de nous, par notre pensée. Si on n'est pas dans la bonne voie, il faut d'abord que je reconnaisse que je ne suis pas dans la bonne voie pour prendre la bonne. Ça commence par mon intelligence. Il ne faut pas essayer de changer par nous autres-mêmes, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant notre manière de penser. Tout changement doit prendre d'abord, comme je disais tantôt, doit d'abord commencer par notre esprit, dans nos pensées, dans notre intelligence. Mais votre manière de penser aura une influence automatiquement sur vos émotions et ça va influencer nos actions. Automatiquement, si je commence à penser autrement, je vais commencer à agir autrement. Un autre point, c'est qu'on doit purifier notre esprit. Il faut nourrir notre âme et nourrir notre âme d'un bon enseignement qui va être conforme à la parole de Dieu. Pas commencer à contester, commencer à regarder ce qui se passe autour. On regarde la parole de Dieu. C'est clair, ça, que quelqu'un a déjà dit un jour, il est arrivé au rein prédicateur et dit, « Hey, dis-moi, je voudrais faire la volonté de Dieu. Et j'aimerais que tu m'aides. Tu me montres ça dans les Écritures. » Il m'a dit, « Les Écritures, si je commence à te montrer à travers les Écritures comment discerner la volonté de Dieu, ça va être long un peu. » Mais il dit, « Je vais te donner un truc, cool. » Il dit, « Regarde comment le monde se dirige. Je fais le contraire, tu vas selon la volonté de Dieu. » La plupart d'entre nous, on manque de patience. Et nous voulons voir d'importants changements tout de suite. Mais le changement exige beaucoup de temps afin de réussir de manière durable. Ça va aller peu par peu. Le changement se fait graduellement. Et le changement qui va résister le plus, c'est celui qu'on se rend compte le moins. À un moment donné, on n'a pas connaissance. Puis l'autre dit, « Mais ça, t'es pas comme avant. » Ah! Ça change, mais on n'a pas connaissance. C'est ceux-là qui sont les plus durables. J'écoutais la semaine passée, Gabi, il nous parlait de l'homme crucifié, puis ça m'a fait penser à ça. Vous savez, Galates 2.20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous savez ce que ça donne à un homme crucifié? Il faut juste rajouter ce que Gabi a dit la semaine passée. Imaginez-vous, comme Gabi parlait, il y avait des milliers qui étaient crucifiés sur des croix. Qu'est-ce que le gars accroché sur la croix peut faire? Il ne peut plus rien faire. Où peut-il regarder? Juste en avant. Il ne peut plus regarder en arrière. Vous comprenez l'idée? Crucifié avec Christ, ça veut dire que tu regardes juste en avant, tu ne peux plus regarder en arrière, tu ne peux plus reculer dans ta vie, dans ta vieille vie comme avant, tu ne peux plus décider toi-même. Il y a un autre qui va décider pour toi. Est-ce que vous êtes vraiment crucifié avec Christ? Si vous êtes vraiment crucifié avec Christ, c'est Dieu qui va décider pour vous, pas vous qui va décider. On n'est pas tout à fait rendu là. Hein? On prend encore des décisions tout seul. Avant, on lui demande après, quand ça va mal. Comme quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, puis il commence à pleurer, il dit, « Ah, il faut que je te rencontre. » Il dit, « Ça va pas bien. » Ah oui. Il dit, « J'ai une peine d'amour. » Hop, boy. Ça va pas bien, une peine d'amour à 58 ans? Problème. Il faut qu'il apprenne à devenir crucifié avec Christ. Un autre point qu'on peut retrouver, je fais un résumé un peu ce soir, hein, c'est la reconnaissance en toutes choses. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on pourrait avoir des points en 9, 10, 11, 12, il y en a plein la parole, des sujets dans les Écritures, on découvre, on discerne tout de suite, c'est la volonté de Dieu. On le sait déjà. On le sait déjà parce qu'il y a trois étapes importantes à suivre, puis la première, c'est la parole. Et 98% de sa volonté nous est révélée dans sa parole. Évidemment, il faut la lire. Il y a des personnes, des fois, qui se posent des questions. Ils aimeraient bien connaître la volonté de Dieu, mais ils ne lisent pas. Ils vont lire. Tu vas avoir souvent des réponses. Le deuxième point, moi, que j'aime beaucoup, c'est la conviction intérieure. Le Saint-Esprit qui nous parle. Je m'en vais quelque part, moi, puis je demande au Seigneur, puis là, à un moment donné, je sens ça en dedans. Moi, je n'entends pas de voix, là, je ne crois pas cette affaire-là. Mais je le sens, par exemple. Il y a comme une petite voix intérieure qui me dit, non, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut revenir là-bas. Puis d'autres fois, je me sens vraiment, vraiment que c'est ça. La conviction intérieure. Ça, c'est une chose très importante. C'est plus important, la parole et la conviction intérieure. Le troisième point qu'on peut voir, c'est les circonstances. Vous savez que nous savons qu'aucune circonstance n'est le fruit du hasard. Mais des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment, ce sont souvent des indications qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. On a entendu souvent on compare ces portes ouvertes, ces portes fermées à la toison de Gédéon. Hein? On fait des tests. On fait des tests, ouais, qu'est-ce que le Seigneur va me répondre? On va refaire un autre test, ouais, que le Seigneur va me répondre. Attention, l'utilisation de cette méthode-là, c'est pas la plus efficace. Je vais vous donner une illustration sur les circonstances. Vous êtes pas mal tous familiers avec le livre de Job? Vous avez tous lu le livre de Job? Oui? OK? Je ne ferai pas lever la main ceux qui ne l'ont pas lu. Pas le livre de Job, excusez-moi. Jonas. Vous avez lu ça, Jonas? Oui, toi, je sais, ça fait 58 fois que tu le lis. Il y en a que ça fait juste une fois. En tout cas, on va raconter l'histoire de Jonas. Vous savez que Jonas est un homme que Dieu avait choisi pour lui dire d'aller dans une ville qui s'appelle Ninive, dans le nord, pour annoncer la bonne nouvelle à Ninive. C'est le plus grand effort d'évangélisation qui a jamais été fait. Mais Jonas, lui... Jonas, lui, on lit, ceux qui ont tourné dans Jonas, là, au verset 2, Dieu dit, « Lève-toi, va à Ninive, dans la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffa. Au lieu de s'en aller vers Ninive, il s'en allait à Jaffa, puis il a pris un bateau pour s'en aller dans l'autre direction, complètement dans l'autre direction. Et là, c'est marqué, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et à la fin du verset 5, nous lisons, « Et Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » On peut s'imaginer, hein? Il a descendu, il a pris le bateau, il a payé. Ça coûte de quoi quand on n'est pas dans la volonté de Dieu? Ça coûte plus cher un peu. Il a payé, il est descendu dans le bateau, il s'en va se coucher, bien calme. Imaginez-vous si le Seigneur est arrivé. « Hey, Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit d'aller à Ninive, puis tu es rendu ici. Qu'est-ce que tu fais là? » Non, tu te réveilles. « Hey, Seigneur, toutes les circonstances, tu es là. » Il est déjà arrivé. Moi, il est déjà arrivé à Tarsis, puis il dit, « Il y avait un bateau. » Qui n'était pas parti encore. Puis il y avait encore de la place à bord. À part ça, le capitaine a même accepté de me vendre un billet. Il dit, je suis rentré, je suis arrivé là, puis on m'a souhaité la bienvenue. On m'a même offert un lit pour me coucher. Tout était là. Il y en avait tellement de circonstances qui démontraient que j'étais correct. Mais il y avait un problème. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Mais selon les circonstances, ça allait. Mais ce n'était pas ça. C'était à Ninive que tu devais aller. Mais Jonas avait une petite leçon à apprendre. Vous savez, quand le Seigneur nous montre quelque chose, puis qu'à un moment donné, on n'écoute pas, on continue, à un moment donné, le Seigneur va nous laisser aller, mais on a des petites leçons à apprendre. Là. Puis Jonas en a appris une bonne. Puis quand on apprend une leçon, normalement, quand tu apprends une leçon, tu n'en vas pas en montant, tu en vas en descendant. Moi, je n'ai jamais été un alcoolique, mais j'ai entendu dire souvent que ceux qui ont un problème d'alcoolisme, ils disent qu'il faut qu'ils touchent le fond du baril. La drogue, il paraît que c'est la même chose. N'importe quelle dépendance, il faut arriver jusqu'au fond pour crier au Seigneur. Mais Jonas est descendu au fond. Il est descendu à Jaffa, il est descendu dans le bateau, il est descendu dans le fond du bateau, Il est descendu dans le fond de la mer, il a été avalé par un cachalot, puis il a été rejeté sur le bord de la mer. Puis il dit au chapitre 2, verset 7, il dit, « J'ai descendu jusqu'à la racine des montagnes. » C'est creux, là. Il a descendu avant de remonter, mais avant de remonter, il a crié « Seigneur », puis là, le Seigneur lui a dit, « Va-t'en à Ninive. » Il est reparti, puis c'est allé à Ninive. Il a chialé tout le temps, mais c'est pas grave. Il a tout chialé. Mais quand même, il est allé dans la bonne direction, mais avant, il y a eu cette leçon-là à apprendre. Si la Bible est claire au sujet d'une décision à prendre, efforcez-vous d'y obéir. Sinon, il va y avoir des conséquences, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur permet parfois que nous faisions des erreurs afin de nous enseigner des leçons que nous n'aurions pas apprises autrement. Vous savez, on fait souvent des erreurs, puis le Seigneur se sert de ça pour nous apprendre des leçons. Le Seigneur permet aussi des situations pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Des fois, le Seigneur, c'est pas nécessairement, le Seigneur permet des difficultés, c'est pas nécessairement, ça peut être pour nous apprendre des leçons, mais ça peut être aussi pour nous amener, est-ce que tu vas continuer à me faire confiance malgré que ça va mal? On peut se poser la question, quand ça va mal, est-ce que j'ai désobéi? Est-ce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? C'est quoi qui se passe? Peut-être pas. Mais le Seigneur te laisse aller des difficultés. Mais pendant que ça va mal, est-ce que tu vas continuer à faire confiance? Ou sinon, tu vas commencer à douter? Nous pourrions ajouter aussi, comme quatrième point, le conseil des frères mûrs ou des adultes spirituels. Je sais que quand on parle avec les différentes générations, les générations, c'est pas que notre génération, nous autres, est meilleure que les autres. On n'a pas toujours écouté nos parents, nous autres non plus. Mais je remarque qu'aujourd'hui, les jeunes ont moins tendance à aller demander conseil aux plus vieux. Puis ils sont obligés de payer le prix des petites erreurs qui auraient pu s'éviter s'ils avaient été demandés, « Hey, tu devrais essayer ça, de faire ça? » Ouais, je l'ai essayé, puis ça ne marche pas. Essaye-le pas. Mais ils l'essayent après qu'ils l'ont essayé. Là, ils vont demander. Mais oui, mais alors, tu le demandes avant, pas après. Tu aurais évité ça. Mais on a tous passé par là, on a tous cette tendance à un moment donné à vouloir renier notre bac tout seul. Hein. D'un proverbe qui nous est dit, « Le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Proverbe 24, verset 6. Alors, les étapes à suivre sont très importantes. La parole, la conviction intérieure, les circonstances et conseils de frères ou des lectures ou même des messages. Le Seigneur souvent va nous parler à travers ces situations-là. Mais lorsqu'il est question de discerner la volonté de Dieu, il y a certaines questions de base qu'on doit se poser. Ma décision est-elle en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu? Ma décision est-elle en accord avec mes objectifs de vie, mes valeurs? Quel impact ma décision aura-t-elle sur mon mariage, ma famille, mes frères et mes sœurs dans la foi? Ma décision aura-t-elle un impact sur ma vie spirituelle? On a vu, il y a un cantique qui a été fait, hein? L'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi et instruis-moi. Je dois chanter bien ça, là. J'avais une meilleure voix que ça dans le passé. Mais c'est un cantique qu'on a chanté souvent, ça, là, peut-être une trentaine d'années. Là, c'était très populaire, les chants tirés de la parole de Dieu. Le psaume 25. Question de base pour discerner la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu vous parle et que vous comprenez très bien sa volonté, attention de ne pas tenter Dieu au point de vous embarquer sur sa volonté permissive. Dans le livre des Nombres, et ça, ce serait intéressant qu'on y tourne pour ceux qui ont une Bible avec eux autres, livre des Nombres, chapitre 22. Vous avez sur la carte ici, les Juifs arrivaient du désert, puis ils venaient pour traverser Moab, ils étaient rendus là. Ça en allait eux autres pour aller traverser le Jourdain pour rentrer dans le pays promis. Et quand ils sont venus pour traverser Moab, ils ont frappé un obstacle. Ce n'est pas le premier obstacle qu'ils rencontraient, mais ils en ont rencontré une là. Au chapitre 22, verset 1er, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Les Israélites avaient remporté beaucoup de victoires et les autres peuples en avaient entendu parler, verset 2. Balak, qui était le roi de Moab à l'époque, fils de Tsippor, vit que tout Israël avait fait ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Au verset 4, on peut voir que les Moabites, eux autres, croyaient d'être envahis par les Israélites. Et là, ils ont fait la demande de finir un certain prophète, qui prophétisait pour n'importe quel dieu. Il en connaissait plusieurs. Puis il réussissait assez bien. Alors, ils ont décidé de le finir. Verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Et Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve l'Euphrate, dans le pays où des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Balak croit que Balaam a toute cette puissance-là. Mais nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes surveillés. Hein? Voyez-vous ce peuple-là qui surveillait le peuple d'Israël? Puis ont vu les victoires qu'ils ont eues dans le passé. Puis les autres prennent panique. Le peuple est ici. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous savez, les gens qui sont autour de nous, si vous avez une vie qui démontre une vie consacrée pour le Seigneur, les autres autour le voient. Puis ça les désécurise. Ils ne savent pas trop ce que vous allez faire, quelle sorte de puissance que vous avez. Si vous vivez une vie chrétienne consacrée, les autres vont vous considérer comme une menace, peut-être. Et ils peuvent utiliser des tactiques pour essayer de vous éliminer. Balaam, lui, qui a été demandé pour venir aider là, c'est un prophète énigmatique un peu mystérieux. Il est bien connu du roi Balak, un roi païen. Il venait probablement de la même région. Balak le connaît comme étant un bon devin, puis qui était capable de parler pour n'importe quel dieu. Mais c'est intéressant parce que Balaam, il parlait pour d'autres dieux, mais il était capable de discerner quand c'était l'Éternel qui parlait. Regardez au verset 8. Balaam lui dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Ah, il connaît ça. Il connaît l'Éternel aussi. Il connaît toutes sortes de dieux, mais il connaît aussi l'Éternel. Bizarre, ce Balaam-là. Très bizarre. Tous les commentateurs l'ont trouvé bizarre, en tout cas. Ici, il cite l'Éternel comme s'il le connaissait bien. Et on va voir dans le Nouveau Testament aussi qu'est-ce qui est dit de lui. Alors, le but de Balak, c'est de prendre un prophète et de le faire parler contre le peuple de l'Éternel. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Alors Balaam va fait semblant d'obéir ici, mais il se laisse une porte un peu plus tard pour désobéir. Et il mentionne même que le peuple est béni. Si vous regardez au verset 9, Dieu vint à Balaam. Et Dieu vient parler à Balaam, ce faux prophète-là, et dit, « Qui sont ces hommes qui sont chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre. » et le casserai-je. Écoutez bien ce que Dieu dit. Moi, j'appelle ça la volonté directive de Dieu. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu n'iras point parce que c'est un peuple béni. » Ça, on peut appeler ça la volonté directive de Dieu. C'est quoi la réponse? C'est « Tu n'iras pas. » Ça, c'est la volonté directive de Dieu. Quand vous arrivez à quelque part, vous posez la question, quoi que ce soit, si Dieu vous dit non, arrêtez-le. C'est non. Même si Dieu avait autorisé Balaam à si on lit au verset 13, on va lire les versets 13 à 18 pour voir le contexte, pour voir la différence avec le verset 12. Verset 12, c'est vraiment la réponse, « Tu n'iras pas. » Mais Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Ce n'est pas drôle, parce que j'ai été demandé au Seigneur, puis le Seigneur m'a dit, « Non, non, vas-y pas. » Alors, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'Éternel qui ne veut pas me donner un oui. C'est un peu sa réponse. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs, en plus grand nombre et plus considérables que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Alors Balaam, là, oh boy, Dieu m'a dit non, mais lui, il m'offre de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je négocie avec Balak ou je négocie avec Dieu? Mais là, Balaam, on appelle ça des pots de vin, il négocie avec les serviteurs. Regardez bien au verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnera une maison pleine d'argent et d'or, mazan de l'argent et de l'or, une maison complète, je ne pourrai faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Peut-être me réussir à le faire changer d'idée. » Seigneur, j'aimerais ça aller à cet endroit-là, mais le Seigneur me dit non, je vais y demander, m'a prié plus fort. Peut-être que le Seigneur va répondre. Il va changer d'idée. C'est un peu de voir faire changer d'idée. J'avais lu l'histoire une fois d'un petit garçon. Je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Ils sont désobéissants tous les deux. Il s'était fait une petite mardeau à l'automne, il y avait eu beaucoup de pluie, il s'était fait une petite mardeau assez grande. Il y avait 3-4 pouces d'eau là-dessus. Puis il commençait à faire froid, puis il s'est fait une petite glace. Et puis là, le petit garçon, il dit, « Papa, vous voudrez aller patiner? » Mais non, la glace n'est pas assez épaisse, tu vas caler, il n'y a pas de danger, un petit peu d'eau, mais quand même. « Ah non, je veux y aller. » À force, la volonté directive du père, c'était « Non, tu n'y vas pas. » Mais le petit garçon, à force de tirer après la manche, « Vous n'avez pas fait ça, vous autres, là, mais en tout cas, il y en a qui font ça. » À un moment donné, le père, il dit « Vas-y, mais si tu cales, tu ne diras pas, je ne te l'ai pas dit. » Et le petit garçon est allé patiner. Vous savez ce qui est arrivé? La danse a cassé, puis il s'est mouillé. Il est revenu, il pleure. « Ben oui, ce n'est pas de ma faute. Si tu me l'avais dit, ben je te l'ai dit. » Tu n'as pas écouté. Vous savez, Dieu peut se servir de n'importe qui. Hein? Il va se servir même de ce prophète-là, Balaam, pour pouvoir parler. Il s'est servi même de Pharaon, pour sortir son peuple d'Égypte. Il peut se servir de n'importe qui. Le Seigneur ne sert pas juste des chrétiens, il peut se servir de n'importe qui pour parler, pour agir. On va regarder trois points sur la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est obtenir un non, un oui, alors que Dieu dit non. Il y a trois passages différents qu'on trouve dans les Écritures en ce qui concerne cette désobéissance. On a d'abord la voix de Balaam. Et on va tourner dans 2 Pierre, chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 2. Après le livre de Jacques, on a 1 Pierre et on s'en va dans 2 Pierre, chapitre 2. Au verset 1er, « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament. « Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on n'a pas des faux prophètes. On a des faux docteurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes qui d'autres disaient parler de la porte de l'Éternel. Aujourd'hui, on a des faux docteurs qui viennent pour nous emporter un mauvais enseignement. Il y a ces faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître et les arachotiers, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète, l'égarement du prophète. Et vous, Balaam avait été engagé par un roi idolâtre pour maudire le peuple d'Israël. Il a obéi à Dieu pour un certain temps, mais ses mauvaises intentions l'ont emporté. Et si on se réfère à cette histoire de Balaam, obtenir un oui quand Dieu dit non. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies aujourd'hui? Oui, ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix de partenaire, ça peut être un choix au sujet d'un mariage, au sujet d'un travail, au sujet d'une recherche d'emploi, d'un voyage, d'un déménagement, d'une responsabilité, c'est n'importe quoi. On cherche, des fois, on veut savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous autres. Mais si le Seigneur, il vous dit non, n'essayez pas d'avoir un oui. La voix de Balaam, c'est avoir un oui quand Dieu dit non. L'égarement de Balaam, au verset 11 de l'Épître de Jude, un petit peu plus loin, quelques pages dans vos Bibles, vous arrivez, après les Épîtres de Jean, vous arrivez à l'Épître de Jude, et le verset 11, nous lisons. Malheur à eux, les apostats, hein, qu'il y ait question dans ce passage. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. On a trois exemples d'hommes ici qui ont agi selon leur propre volonté. On a Caïn. Caïn qui a tué son frère par excès de jalousie, la voie de la désobéissance. Balaam qui a prophétisé par soif de posséder, le raisonnement humain. Corée qui s'est rebellé contre les responsables choisis par Dieu. Insoumission à l'autorité. Ils se sont tous égarés loin de la vérité. Attention, lorsque Dieu nous parle, on doit obéir. Il faut arrêter de raisonner, d'avoir des raisonnements humains, puis obéir. Être soumis à Dieu, être soumis aux autorités. Dirigeant dans la société, Romains 13, au travail, Éphésiens 6, 5, dans l'Église, Hébreux 13, 17, on peut en rajouter, être soumis. En ce qui concerne Balaam, selon sa volonté permissive, il s'égare de plus en plus. Au lieu de reconnaître qu'il est sa mauvaise voie, il continue à s'égarer. Il sait que Dieu a béni ce peuple, mais dans un certain sens, il a toujours dans sa pensée que Dieu va changer d'idée. Et vous savez, ça commence, voyez-vous, ça commence, on commence par avoir, on s'engage dans une voie, dans un chemin, on s'égare, puis dans notre égarement, à un moment donné, on devient tellement convaincu que c'est la vérité, que ça devient une doctrine, un enseignement. On commence à l'enseigner comme tel. Et c'est ça qu'on appelle la doctrine de Balaam. Dans Apocalypse, encore un petit peu plus loin, dans vos Bibles, deux pages plus loin, vous allez trouver la doctrine de Balaam au chapitre 2, verset 13. Apocalypse 2:13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants et fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. La doctrine de Balaam, c'est d'inciter le peuple de Dieu à s'unir en mariage avec les Moabites, avec le monde. Mépriser l'ordre de Dieu en enseignant son peuple à s'unir avec les autres nations. La doctrine de Balaam, on était rendu là. Et si on résume ces trois points, on peut voir que la voix de Balaam a de tenir un oui alors que Dieu dit non. L'égarement de Balaam, en étant sous la volonté permissive, il s'égare dans la désobéissance. La doctrine de Balaam a incité le peuple à la débauche en l'enseignant à s'unir avec le monde. Vous savez que quand l'Église s'unit au monde, elle commet un adultère sur le plan spirituel. Jacques, chapitre 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne pense pas qu'on veut être ennemi de Dieu. Alors, si on veut être un bon ami de Dieu, il faut marcher comme Dieu nous le demande. On peut faire une petite application à ce qu'on vient de voir ici. Et vous, ça commence par une désobéissance. Le Seigneur dit non, on n'écoute pas. Je m'égare et dans mon égarement, je cherche de l'appui ailleurs qu'en Dieu. Et cette désobéissance devient une doctrine, devient un enseignement. Et si le Seigneur dit non, n'essayez pas d'avoir un oui, parce qu'il va avoir des conséquences, ça c'est certain. On va regarder vitement Balaam, comment il se fait réprimander. On ne prendra pas le temps d'aller lire les versets parce que le temps est avancé, mais on va regarder Balaam, comment il se fait réprimander. Son âne se détourne du chemin. Ensuite, il se fait écraser un pied. Là, on a dû le raisonner. Il se fait parler par un âne, c'est pas drôle. Là. Ensuite, c'est l'ange qui le gronde. Si le Seigneur nous reprend constamment, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, là, il fait quatre fois de fil qu'il arrive quelque chose. Il continue encore. Il ne veut pas arrêter. Il semble bien spirituel. Il a adoré au verset 31. Il a même confessé sa faute. Je ne le ferai plus. Il a même promis de changer d'attitude. Mais parce qu'il était déterminé à y aller, Dieu le laissa aller. Si vous voulez vraiment désobéir, Dieu va vous laisser faire. Mais on va payer le prix des conséquences. C'est le livre de Job qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, puis on n'écoute pas. Quand Dieu parle, il faut écouter. Ensuite, c'est Balak. Balaam se fait réprimander par Balak. En voulant plaire à Dieu et à Balak en même temps, il a réussi à déplaire aux deux. On ne peut pas servir deux maîtres. Balaam a tellement peur de déplaire à Balak qu'il persiste espérant tôt ou que Dieu va changer d'idée. Un faux prophète cupide, nous dira certains. Dieu ne changera pas d'idée. Il a béni son peuple, puis c'est un peuple qui va rester béni. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Fais ce que tu voudras, je ne changerai pas d'idée. Et quand on étudie le chapitre suivant, chapitre 23, Balaam a obtenu la permission d'aller où il désirait. Il persiste et désire toujours que Dieu change d'idée. Mais Dieu va faire parler Balaam. Il y a quatre messages qui viennent après ça. C'est assez intéressant d'étudier ça. Il fait monter sur une montagne. Puis là, Balaam, il vient pour parler. Puis à un moment donné, Dieu se saisit de Balaam. Puis il dit, regarde, tu es beau, mon peuple. Balaam dit, oui, le peuple, il est beau, il est béni, ce peuple de Balak. Je ne dis pas ça que je t'ai demandé de dire. Mais moi, je dis ce que Dieu me dit. Puis là, il veut bien, encore une fois, il se rassaye, mais quand il arrive pour maudire le peuple, Dieu se saisit de Balaam et il fait bénir. Quatre fois de fil, ça arrive. Il persiste tout le temps, mais Dieu, il fait toujours dire les bonnes choses, puis Il est toujours en chicane. Il est venu en chicane avec Balaak, ça n'a pas de bon sens. Conséquence de sa désobéissance. On sait par d'autres versets que Balaam, un peu plus tard, a été mis à mort selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël. » Nombre 31, verset 1. Et on peut voir un peu plus loin. « Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, et Évir, Rékem, Tsur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. » Il n'a jamais eu sa maison remplie d'or. Il ne l'a jamais eu. Il est mort, tué par l'épée. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. » Il a déplu à l'Éternel au tout début. Dieu lui avait dit, « Tu n'iras pas. » Il n'a pas écouté. Il a été réprimandé par l'ange, grondé par l'ange, réprimandé par Balaak. Puis arrête pas. Si le Seigneur vous a déjà demandé de ne pas aller à tel endroit, ne demandez pas un oui s'il vous a dit non. Si le Seigneur vous a déjà demandé de montrer de ne pas faire telle chose, de ne pas lire tel livre, de ne pas visiter tel site Internet, de ne pas écouter tel film, dites pas, Seigneur, ouais, les autres le font. C'est non. Si les autres désobéissent, c'est le problème à eux autres, ça. Ça, c'est mon problème à moi. Elle ne l'avait pas fermé avant de rentrer. C'est ça. Vous savez, quand on va arriver devant Dieu, on va tous avoir à répondre pour nous-mêmes. On a toujours cette pensée-là qu'on va faire les autres qui font plein de choses qui déplaisent à Dieu. Mais si la majorité font des choses qui déplaisent à Dieu, je ne suis pas obligé de le faire. Quand Dieu dit non, n'essayez pas d'avoir un oui. En vous soumettant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu dès le début, on peut s'éviter bien des détours pénibles. Vous savez, quand ça va difficile, quand on a des moments difficiles, on se pose des questions. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, moi ça m'a fait beaucoup de bien, quelqu'un a déjà dit, c'est une erreur de croire que même si nous obéissons à Dieu, tout ira bien. Être consacré à Dieu signifie le suivre, même quand les choses vont mal. Parce qu'il y a certains chrétiens qui ont cette philosophie-là, il y a cet enseignement-là. Hein? Si tu es dans la volonté de Dieu, tout va aller bien. Ton char ne brisera pas, ton compte en banque ne viendra jamais à zéro, tu seras jamais malade. Il faut y en mettre. Tu sais? C'est une erreur. Être consacré à Dieu signifie le suivre, même quand les choses vont mal. C'est une erreur de croire que la vie est facile quand on obéit à Dieu. Pas vrai. Dieu n'ôte pas les difficultés. Il s'en sert pour notre bien et pour nous former. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les bateaux. Je sais que Gaétan, il est bon dans les bateaux. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, tu sais, il était à une époque, là, un peu en arrière de nous autres, ça. Quelqu'un qui conduisait un bateau, puis que la mer est bien calme, ça va très, très bien. Mais quand il y a des tempêtes, c'est là qu'on apprend à naviguer. Et quelqu'un disait, un bon marin est formé par les tempêtes, pas quand la mer est belle. Et pour nous autres, c'est la même chose, on est formé par les difficultés. C'est une erreur de croire que la vie est facile quand on obéit à Dieu. Dieu n'ôte pas les difficultés, il s'en sert pour nous, pour notre bien et pour nous former. Avec ça, on apprend des grandes choses, on apprend à connaître Dieu davantage, on apprend à marcher avec lui, on apprend que marcher avec lui, c'est marcher contraire au monde, marcher contraire à bien des choses, mais on est dans la bonne direction. C'est ce qui est important, c'est d'être dans la bonne voie. Je termine avec une petite histoire. On raconte que le propriétaire d'un commerce plaçait chaque jour un verset biblique. Pas tout le monde qui ferait ça aujourd'hui. Il passait un verset biblique dehors, devant son commerce. Et un chrétien, tous les matins, allait acheter quelque chose là, le matin, puis il aimait ça lire le verset biblique. Puis, à un moment donné, c'était « Fais de l'Éternel tes délices, Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, je s'en allais dans le jour, fallait de l'éternel tes délices. Il médite ça toute la journée, ça va très bien. Un autre jour, c'est un autre verset, puis un autre jour, c'est un autre verset. Puis il médite le verset qu'il a lu le matin. Et un bon matin, il arrive, puis sur le panneau, c'était écrit « Oui, Seigneur ». Ce matin-là, il se demande « Comment appliquer ça à ma vie aujourd'hui? » « Oui, Seigneur. Comment je vais appliquer ça à ma vie? » Puis tout d'un coup, après réflexion, il se dit « Oui, Seigneur, aujourd'hui, je serai content d'être là où tu veux que je sois. Oui, Seigneur, je vais te faire confiance quant à l'incertitude à laquelle je fais face. Oui, Seigneur, je vais accomplir ta volonté. » Êtes-vous prêt à dire humblement « Oui, Seigneur? » On va prier. Seigneur, on veut te remercier encore ce soir pour ta parole. 98% de ta volonté est dedans et on sait que c'est en la lisant qu'on discerne ta parole. Et on te prie, Seigneur, chacun de nous ici, on est toujours à se poser des questions. Chaque jour, on a des décisions à prendre. On se demande, est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté? Seigneur, sois gracieux envers nous, puis donne-nous la joie, Seigneur, de discerner facilement ta volonté pour les jours qui viennent, afin qu'on réalise vraiment que tu es là, que tu nous diriges. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre que quand les moments sont difficiles, c'est parce que tu veux qu'on continue à te faire confiance, à mettre notre foi en toi, même si ça ne va pas bien. Seigneur, on sait que c'est toi qui contrôle tout. On sait que c'est toi qui vas nous amener jusqu'à la fin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous garder. De nous garder, Seigneur, pour qu'on arrive à un bout de piste et qu'on soit parmi les vainqueurs. Seigneur, on t'en remercie et on t'en prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.